La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Alors la dernière fois, nous avons rencontré une actrice et productrice libano-égyptienne nommée Assia Daguerre, ainsi qu'une autre Libanaise d'origine du nom de Rose El Youssef, et qui fut actrice, mais surtout journaliste en créant Revue et Quotidien. Et aujourd'hui, d'un coup d'aile, nous nous envolons vers la Turquie pour y rencontrer Bedia Müvahit, une pionnière turque née en 1897, qui, elle, pourra s'exprimer et évoluer dans un contexte propice pour les femmes, car le Code civil remplacera l'État islamique en 1926. Bon, ce qui fait que l'État va promouvoir l'égalité entre hommes et femmes et que celles-ci vont être encouragées à exercer des professions jusque-là réservées aux hommes. Bref, il semblerait qu'un vent de liberté souffle pour les femmes en Turquie à cette époque. Et tout ceci serait l'œuvre d'un homme, d'un dirigeant charismatique, fondateur de la République, nommé Mustafa Kemal Atatürk. Et elle aurait d'ailleurs témoigné de ses débuts en tant qu'actrice de théâtre et du fait qu'avant elle, une actrice turque nommée Afif Jal aurait été arrêtée et jetée en prison pour vouloir renouveler une prestation cynique. Bon, apparemment, c'était plutôt des étrangères qui assumaient les fonctions de comédienne de théâtre. Et d'une certaine manière, et d'après ce que j'ai compris, ce serait Atatürk lui-même, étonné du manque d'actrices de son pays sur la scène, qui aurait insisté pour que Bedia Müvahit se produise devant lui. Apparemment, elle eut du succès, mais, j'ai néanmoins lu qu'il lui aurait quand même demandé, après la pièce, de se couvrir la tête avec un foulard, en justifiant cela par le fait qu'il fallait petit à petit habituer la nation au changement qui l'attendait. Et que de surcroît, jouer sur scène était déjà un grand pas en avant. Alors en ce qui concerne les débuts du cinéma, beaucoup affirment qu'ils ont eu lieu en 1923, et que surtout étaient recrutées comme actrices toujours des femmes non musulmanes de nationalités diverses, comme des Russes, des Arméniennes ou des Grecs, pour des rôles qui restaient somme toute insignifiants. Alors mettons-nous un peu dans l'ambiance avec un petit peu de musique turque entraînante.
Gecenin bir köründe uyumuşuz şeytana. Yine yan yollardan döneceğiz galiba. Ah ulan sevda, ah ulan sevda, bir kere de sen
gecenin bir köründe uyumuşuz şeytana.
Mais je pense que la musique vous a bien réveillé. En tout cas, c'est le but, car nous allons continuer de faire connaissance de notre actrice pionnière, Bedia Muvahit, qui fait ses débuts en 1923 dans un film tiré d'un roman de Halid Edip Adivar, intitulé en français « La chemise de feu », mais également traduit par « La fille de Smyrne ». Alors, un petit mot sur Halid Edip Adivar, qui est intéressante à connaître. C'est une femme de lettres turque, également enseignante, née en 1884. C'était une érudite qui parlait l'anglais, le français, l'arabe, qui reçut une solide éducation en littérature, en sociologie, philosophie et mathématiques. Et elle publiera à un moment de remous politique des articles portant sur l'éducation et le statut des femmes. En tout cas, c'est une femme engagée, féministe, qui fut très active, notamment en politique, et nombre de ses romans ont donné lieu à des films. Et notamment celui-ci, hein, La chemise de feu, ou La fille de Smyrne, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui combat pour la libération de son pays lors de la guerre d'indépendance nationale turque. Et il paraît que Halid Edip Adivar a insisté pour que l'héroïne soit interprétée par une femme musulmane turque. Et c'est ainsi que Bedia Muvahit a joué aux côtés d'une autre actrice turque nommée Nehir Nehir. Et ce film a été considéré comme le premier film épique turc. Alors, lancée dans une carrière cinématographique, Bedia Muvahit participera à plus d'une quarantaine de films et à plus de 200 pièces de théâtre. Et elle a également traduit en turc des pièces françaises et elle recevra des prix, notamment le Atatürk Art Award en 1981 et le Lifetime Achievement Award en 1993, qui est un prix honorifique récompensant l'ensemble d'une carrière. Et un prix de théâtre portera également son nom. Quant à Nehir Nehir, actrice elle-même, vous l'avez compris, elle était aussi turque, née en 1902. Elle est sortie diplômée de l'Académie des enseignants pour filles d'Istanbul pour tout de suite devenir comédienne de théâtre en 1923 dans un premier rôle dans Othello, mais elle sera également par la suite éditrice de magazines de cinéma, journaliste et écrivaine. Auparavant, elle épousera un producteur de théâtre, également comédien et cinéaste nommé Ertug Rull, et continuera sa carrière d'actrice de cinéma, bien sûr, mais surtout au théâtre où elle jouera dans de nombreuses pièces. Et un voyage en Russie dans les années 20, dans les milieux théâtraux, fera qu'elle créera un journal en 1930 et elle se servira de son expérience russe pour écrire des articles sur la littérature et le théâtre russe. Et elle publiera sous le nom de Munir Eyoub. Alors en 1941, elle publiera en collaboration avec son mari un autre journal intitulé, et je le traduis en français, « Écran et scène », destiné surtout à faire connaître et valoriser le cinéma et le théâtre auprès du public. Et il ressort de son parcours qu'elle fut véritablement une personne clé dans la valorisation de la culture turque. Et d'ailleurs, un collègue acteur, un nommé Vasfi Riza Zobu, a souligné dans la nécrologie qu'il écrivit sur elle combien elle était curieuse d'esprit. Et il vante ses nombreuses connaissances, et notamment cinématographiques et théâtrales, ainsi que son aisance à s'exprimer dans diverses langues, comme le français, l'anglais ou le russe. Et de plus, elle était connue également pour être peintre et musicienne. Et il semblerait que son rôle de pionnière au cinéma turc, en épaulant son mari Ertug Rull, lui-même reconnu comme un pionnier au cinéma turc, est bien à prendre en considération. Bon, apparemment, elle est décédée très jeune, trop, hein, évidemment, puisqu'elle n'avait que 41 ans, l'année 1943. Alors, pour notre pause musicale, je vous propose une musique tirée d'un film d'aventure tourné en 1964, réalisé par Bernard Bordery. Film que j'avais vu lorsque j'étais enfant et qui nous a fait voyager jusqu'aux confins de l'Arabie. L'histoire tourne autour d'une ravissante jeune femme qui donna d'ailleurs son nom au film, puisqu'il s'agissait d'Angélique, marquise des Anges. Et l'héroïne Angélique était interprétée par Michel Mercier, que je trouvais si belle quand j'étais gamine. Et Robert Hossein, hein, décrit dans le film comme l'est, car il claudiquait avec un visage recouvert de balafres, interprétait Geoffrey de Peyrac. Et dans mon souvenir de gamine, je ne comprenais pas pourquoi Geoffrey, alias Robert ou Robert alias Geoffrey, provoquait autant de répulsion, alors que moi je trouvais extrêmement séduisant ce beau ténébreux aux yeux brûlants. Eh bien, je vous propose de vous transporter de nouveau dans le film, en Arabie, puisque l'Orient est d'actualité, en écoutant l'Odyssée orientale d'Angélique.
Thank you.
Eh bien, après cette mélodieuse introduction, partons pour la Tunisie, pays du bord de la Méditerranée, que nous imaginons gorgé de soleil, où nous attend une actrice, scénariste, journaliste et écrivaine née en 1906 à Tunis et nommée Haïdé Chikli. Alors à cette époque, ce début du XXe siècle, dans ce pays, se côtoient encore et toujours religions et nationalités différentes, avec Européens comme les Italiens, les Français, entre autres, hein, des Arabes, des Musulmans, des Juifs, des Chrétiens, également fruits d'un passé où se sont succédées différentes cultures. La Tunisie est aussi considérée comme le berceau de la civilisation carthaginoise, l'une des plus grandes puissances économiques et culturelles actives des centaines d'années avant Jésus-Christ. Et la Tunisie fut aussi sous domination romaine, vandale et l'Empire ottoman. Mais la Tunisie de ce début du XXe siècle, c'est l'époque où il semblerait que les femmes soient assujetties à un statut plutôt réducteur, car si elles n'apparaissent pas dans la sphère sociale, tout juste ont-elles leur mot à dire dans la sphère familiale. Et de plus, l'instruction leur était inaccessible la plupart du temps. En tout cas, c'est ce que j'ai lu. Et qu'en est-il de Haïdé Chikli, femme née au tout début du XXe siècle ? Ben, nous dirons déjà qu'elle est le produit d'une mixité et qu'elle eut la chance d'avoir une mère musicienne d'origine italienne qui l'encouragea à se tourner vers la musique avec le piano et à s'exercer à l'écriture, hein, ce qui lui servira plus tard dans l'existence. Quant à son père, un juif tunisien, son intérêt se portait sur toutes les technologies nouvelles, comme le télégraphe, la photographie, aussi le cinéma, dont il deviendra un pionnier. Il s'agit d'Albert Samama Chikli, donc c'est son nom, et c'est lui qui encouragera sa fille à s'intéresser à ces nouvelles techniques, notamment le cinéma. Alors il est dit également qu'elle était sa muse et qu'il ne se lassait pas de photographier son joli minois, que j'ai découvert sur Internet. Et en effet, une jolie brune aux très longs cheveux, habillée à l'oriental, nous fait face avec un air rêveur et sérieux. Aussi, déjà bien jeune, grâce à son père, elle jouait la comédie devant la caméra. De quoi se familiariser avec elle. Et le père d'Haïdé, Albert Samama Chikli, réalisera en 1922 son premier film, un court-métrage muet, puisqu'à cette époque, les films étaient muets, qui sera projeté pour la première fois dans la première salle de cinéma de Tunis, le cinéma Omnia Pathé. Or, sa fille est l'héroïne, mais également la scénariste, si bien qu'elle est considérée comme la première actrice du monde arabe. Il paraît même que c'est elle qui avait trouvé le titre du film, qui s'intitulera Zora, qui en arabe signifie « étoile du bonheur ». Alors c'est l'histoire d'une Européenne qui fait naufrage et recueillie par des paysans bédouins dont elle partage le quotidien avant d'être retrouvée par les siens et de rentrer chez elle. Alors elle continuera de jouer la comédie, notamment un petit rôle dans un film suivant réalisé en 1924 par un Américain nommé Rex Ingram, intitulé « L'Arabe », film dans lequel l'un des acteurs les plus réputés du cinéma muet de l'époque, nommé Ramon Navarro, était la tête d'affiche. Et à partir de ce film, justement, le réalisateur, qui pressentait sans doute un potentiel chez Haïdé Chikli, lui aurait proposé un contrat pour 5 ans. Alors évidemment, comme elle n'avait que 16 ans, sa mère l'aurait accompagnée. Mais malgré la présence de la mère, son père fera barrage, au grand désespoir, paraît-il, de la jeune fille. Ceci dit, elle va rebondir, continuer sa carrière de scénariste, toujours chez son père, Albert Samama Chikli, chez qui, on s'en serait douté, elle a le premier rôle dans un film pour lequel elle a écrit le scénario. Ce film, intitulé en français « La fille de Carthage », met en scène une jeune fille arabe obligée d'épouser un homme qu'elle ne veut pas, qui est un fermier riche mais brutal, et elle s'éprend plutôt d'un jeune instituteur et tous deux s'enfuient dans le désert, mais hélas, sont rattrapés par la meute lancée à leur trousse. Et l'histoire s'achève dramatiquement sur la mort de ces deux amants. Et j'ai lu qu'au travers de ce film, Haïdé Chicli a voulu dénoncer le mariage forcé, ce qui deviendra par la suite un motif de lutte pour les femmes au travers du féminisme tunisien. Mais il semblerait aussi que ce film fût perdu ou retiré des archives du musée de cinéma tunisien. Enfin, quoi qu'il en soit, il est annonciateur de sujets qui seront traités dans le cinéma tunisien, notamment concernant la condition de la femme tunisienne. Alors, à partir de 1924, pendant 2 ans, Haïdé Chicli alimentera aussi une chronique dans un journal français intitulé « Le Petit Matin ». Puis, en 1929, elle épousera un Algérien nommé Khalil Tamzali et le suivra en Algérie, où elle continuera d'écrire. Et là, il est dit qu'elle fut très active dans la société. Elle fut présidente d'œuvres sociales de la Ligue contre le cancer, également secrétaire de la Croix-Rouge. Elle continuera à écrire dans la presse. Dans les années 90, elle écrira des nouvelles dans un quotidien tunisien intitulé « La presse de Tunisie ». Publiera en 1992 un livre avec des histoires vécues, apparemment plus ou moins autobiographiques, ainsi qu'un livre de cuisine d'Afrique du Nord avec, paraît-il, 33 recettes différentes de couscous, hein, ce qui m'intéresserait bien de connaître, parce que j'aime beaucoup le couscous. Puis j'aimerais goûter aussi, hein, évidemment. Et puis elle participera également à un court-métrage de 29 minutes réalisé par le Tunisien Mahmoud Ben Mahmoud sur son père, le cinéaste Albert Samama Chicli, considéré comme le pionnier du cinéma tunisien. Et elle terminera sa vie en 1998 à l'âge avancé de 92 ans. Eh bien, nous terminons notre émission sur Haïdé Chicli. Vous avez pu constater que même les Orientales ont participé plutôt activement à l'avènement du cinéma. Mais notre voyage n'est pas terminé. Nous le poursuivrons une fois prochaine, dans une prochaine émission. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute de La Voix des Arts.
La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.